Saint Paul a un mot curieux dans son épître aux Corinthiens pour décrire le mystère de la Passion. Je vous lis. Le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour prêcher l'Évangile. Non point avec la sagesse de la parole, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. La parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La parole de la croix, le verbum crucis, chez Saint Paul, la croix a quelque chose à nous dire. La croix est une parole, et elle nous dit quelque chose d'assez difficile. La parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire pour nous, elle est la puissance de Dieu. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais nous, nous prêchons le Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, soit Juifs, soit Grecs, le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie en Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse en Dieu est plus fort que les hommes. Dans cette dernière conférence, nous avons essayé d'écouter le verbum crucis, ce que la croix a à nous dire, et la croix a quelque chose de paradoxal, à la fois signe d'ignominie, de cette faiblesse, cette détresse de Jésus, abandonné par les hommes, et c'est un petit peu ce qu'on a aussi contemplé hier dans l'agonie, la face sombre de la passion du Christ. Et puis la croix a une autre facette, celle qu'on a chantée à la fin de la messe ce matin, le triomphe, la gloire, le règne de la croix, car sur la croix, Jésus triomphe du mal, son amour triomphe du mal, combat le démon. C'est assez bien représenté d'ailleurs dans le film La Passion du Christ, je ne sais pas si vous avez fait attention au moment même où le Christ expire, le démon se retrouve, qui pensait avoir gagné, ayant tué le Messie, le démon se retrouve prisonnier dans les enfers, une scène assez impressionnante. Et voilà, c'est les doubles visages de la croix, à la fois cette dureté de la souffrance du Christ qui semble avoir tout perdu de sa divinité ou même de son humanité, et en même temps, caché derrière, c'est le moment où Dieu véritablement triomphe et est couronné. Il est couronné. Donc la croix et la gloire, les deux thèmes mêlés. Et c'est ce qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui, notamment à travers l'Évangile selon Saint Jean. Avant, pour rentrer un petit peu dans ce thème de la croix, et donc on va regarder le cœur transpercé pour essayer de respecter un petit peu notre plan, au moins pour la fin. Ce cœur transpercé, vous avez les quatre évangiles, vous avez les quatre passions. Vous allez les entendre durant la semaine sainte. La liturgie nous permet de les entendre toutes les quatre. Hein, dimanche des rameaux. Alors, dans le nouveau rite, il me semble que dans le dimanche des rameaux, on alterne entre les trois synoptiques. Dans l'ancien rite, c'est le dimanche des rameaux, c'est toujours la passion selon saint Jean. Et ensuite, le lundi saint, on va aller à la messe le lundi saint. Le lundi saint, on entend la passion selon saint Luc, je crois. Le mardi saint, j'ai un trou. Mardi saint, je suis sûr que c'est saint Marc, et il me semble bien que c'est lundi saint, que c'est saint Luc. Et le vendredi saint, on entend celle de saint Jean. Donc les quatre passions, on les connaît, on les suit. C'est toujours intéressant d'essayer de les comparer, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, mais surtout ce qui nous manque un petit peu en compréhension, c'est tout l'héritage de l'Ancien Testament. L'Église nous le propose d'ailleurs durant même déjà cette semaine et la semaine prochaine, à travers les ténèbres notamment, les offices des ténèbres, la lecture des prophéties, de l'annonce de la mort du Christ, qui je crois peuvent éclairer notre compréhension du mystère. On va en regarder quelques-unes, à commencer par le célèbre passage d'Isaïe 53, on est des centaines d'années avant la mort du Christ, et Isaïe prophétise la mort du serviteur souffrant, et en lisant ces lignes, je crois qu'il faut imaginer Jésus, et peut-être que c'est l'un des récits qui décrit le mieux la mort du Christ. C'est assez stupéfiant de savoir que ce récit a été écrit bien avant l'événement. Je vous le lis, que cela nous aide à rentrer un petit peu dans ce mystère. Isaïe 53, donc. « Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? le bras puissant du Seigneur à qui s'est-il révélé ? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive. Le serviteur souffrance, c'est le Christ. Une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il s'était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. L'annonce de la rédemption est d'une clarté magnifique ici. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Souvenez-vous, hier, nous avons vu le Christ être pris aux entrailles devant ces brebis qui erraient sans pasteur pour les unir. Il y a une référence explicite à ce passage d'Isaïe. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Attention à bien comprendre toujours ce texte. Le Christ n'a pas péché lui-même, mais il a pris la peine du péché. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Les évangiles feront bien attention à ce détail de Autem Jesus tachebat, et Jésus se taisait devant les accusations et les questions de Pilate et notamment de Hérode aussi. Il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Le déroulé de la passion. Qui donc s'est inquiété de son sort ? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Tombeau dans lequel le Christ a été déposé, celui de Joseph d'Arimathie, riche. Tombeau qui n'avait jamais servi. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. C'était l'évangile d'hier ou d'aujourd'hui. J'ai un trou. Qui m'accusera de mensonge ? Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Alors attention à cette phrase. Évidemment, elle pourrait être très mal comprise. Si jamais on en tirait que c'est à cause des souffrances de Jésus que c'est des souffrances qui plaisent à Dieu. Ce n'est pas ça du tout. Ce serait vraiment une très mauvaise interprétation. Ce qui plaît à Dieu, c'est l'amour que Jésus met. C'est l'amour avec lequel Jésus veut pâtir pour honorer son Père, pour rendre à son Père l'hommage de sa vie et puis pour réparer le péché et porter la peine du péché. Ce n'est pas la quantité de souffrance qui sauve l'homme et qui plaît à Dieu, c'est l'amplitude de l'amour avec lequel le Christ supporte ces souffrances que les hommes lui font. Très important pour avoir pas une vision fausse de l'agonie. Évidemment, les souffrances ont un sens dans la passion, mais ce qui fait l'efficacité de la passion de Jésus, du sacrifice de Jésus, c'est son amour infini. C'est le fait qu'il soit l'ami du Père, qu'il soit le bien-aimé du Père, qui fait que son action a une valeur infinie. Et c'est dit juste après. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il y en a qui encore aujourd'hui, ont du mal et refusent de dire que la mort du Christ est un sacrifice. Tant c'était prophétisé avec un mot tout à fait précis, sacrifice de réparation, sacrifice expiatoire, c'était les sacrifices sanglants de l'Ancien Testament. Eh bien, Isaïe dit que tous ces sacrifices sanglants de l'Ancien Testament, où on tuait des agneaux, hein, les agneaux de Pâques, voici l'agneau de Dieu, tout est lié, que ces sacrifices sanglants de l'Ancien Testament sont une annonce, à travers le sacrifice du serviteur souffrant, du sacrifice de réparation de Jésus. C'est une offrande à son Père. Il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Et là, on peut apercevoir, entre les lignes, c'est plus facile pour nous maintenant, parce qu'on est après les événements, apercevoir une sorte de prophétie de la résurrection. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il prolongera ses jours, ce qui est contradictoire. Parce que le sacrifice de réparation, c'est justement le fait de mourir, c'est de tuer l'animal. Et pourtant, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira, etc., etc., etc. Voilà, prophétie du serviteur souffrant qui nous fait entendre un aspect du verbum crucis, l'aspect douloureux, celui sur lequel insistent beaucoup les trois synoptiques, donc Saint Matthieu, Saint Luc et Saint Marc, avec ponctué, vous ferez attention quand vous écouterez les récits des passions, tous ces détails que les évangélistes décrivent, et ils ont en tête les prophéties anciennes, ils disent « c'est en train de se passer ». En tout cas, au moment où ils écrivent les évangiles. Parce que sur le coup, est-ce qu'ils l'ont compris ? Peut-être Saint Jean, on va le voir. Mais en tout cas, sur le coup, qui a pu faire le lien entre ce qui se passe pour le Christ et les prophéties anciennes, les apôtres, non, je ne pense pas. La dernière chose que les apôtres demandent à Jésus, avant l'agonie, c'est « Est-ce que c'est maintenant que tu vas établir le règne en Israël ?» Ils ont rien compris. Ils pensent encore que Jésus est le Messie terrestre qui va établir la paix terrestre, chasser les Romains, etc. Et ça, c'est le dernier dialogue dans l'un des quatre évangiles, avant d'aller à l'agonie. Pas étonnant qu'ils ne comprennent rien de ce qui se passe après. Et même après la résurrection, l'une des dernières choses que les apôtres demandent à Jésus avant l'ascension, c'est « Bon, est-ce que c'est maintenant que tu vas établir ton royaume en Israël ?» Vous voyez la difficulté de compréhension. Ce n'est qu'après, je pense, la Pentecôte notamment, que les liens se font et qu'on comprend mieux ce que le Christ accomplissait toutes les Écritures. Peut-être que Saint Jean est celui qui a peut-être le mieux compris ce qui se passait. C'est pour ça que je vais lire un petit peu les derniers moments de la Passion selon Saint Jean qui sont riches pour nous. Vous savez, l'un des thèmes clés de la Passion selon Saint Jean, si vous vouliez la creuser un peu plus, c'est contrairement aux trois synoptiques, tout ce que Saint Jean essaie de montrer, c'est que le Christ est triomphant. C'est que le Christ règne. Et c'est pour ça qu'il est tout à fait attentif, peut-être plus que les autres évangélistes, à l'aspect de « Es-tu roi ?» le dialogue avec Pilate. « Es-tu roi ?» Oui, je le suis. Mon royaume n'est pas de ce monde. À l'aspect du manteau de pourpre, de la couronne d'épines, des serviteurs qui adorent Jésus, qui se prosternant devant lui, font semblant de l'adorer. Mais Jean fait très attention à ces détails parce que finalement, et il y a cette scène de Lecce Homo qui est racontée par Saint Jean, où c'est derrière le visage tuméfié du Christ dont tout le monde se moque, c'est un triomphe. C'est représenté comme véritablement le roi triomphant, puisque c'est par sa croix qu'il triomphe. Et c'est pour cela que, dans le récit de la Passion, ensuite, Saint Jean ne va pas, par exemple, mettre sur la bouche de Jésus cette parole « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Elle n'est pas dans l'Évangile selon Saint Jean, et pourtant, elle transparaît. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Cette parole « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eli, Eli, lama sabachthani, c'est a été très souvent comprise, un peu dans la ligne de ce que je vous disais hier, comme un cri humain de détresse face à cet obscurcissement de l'âme du Christ volontaire dans laquelle il, Il choisit d'accepter de ne pas tout comprendre pour partager avec nous l'obscurité de la nuit et s'abandonner véritablement à son Père, poser cet acte d'abandon. Et du coup, il y a une cohérence entre « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et « non pas ma volonté, mais la vôtre, Seigneur. » Et puis, une cohérence entre « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et « je remets mon esprit entre vos mains. » C'est vraiment un acte du Christ. Je crois que c'est tout à fait justifié, tant qu'on explique bien que c'est volontaire de la part du Christ, c'est une manière pour lui de s'unir à nous, et qu'il n'a pas du tout été abandonné, et il n'a pas du tout été abandonné par le Père. On met bien les précisions. Je crois qu'on peut apporter cette explication à cette parole difficile du Christ sur la croix. Il ne faut pas négliger cette sensation d'abandonnement qui pousse du coup le Christ à s'abandonner et qui est riche, je crois, pour nous en enseignement spirituel. Mais on peut aussi expliquer cette parole « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné » d'une autre manière. Pourquoi ? Parce que c'est la première parole d'un psaume, du psaume 21, que Jésus reprend. C'est une prière que Jésus fait. Ce n'est pas une parole qui vient de lui, contrairement aux autres paroles. Ce n'est pas une parole qui vient de lui, mais c'est Jésus qui consciemment commence à réciter le psaume 21. Or, quand on regarde le psaume 21, c'est aussi, et c'est peut-être l'autre lieu avec Isaïe 53, une description de la passion du Christ, mais avec une particularité, c'est que le psaume 21 traverse toute la passion du Christ, on va le lire, traverse toute la passion du Christ et aboutit sur un chant d'espérance et de confiance en Dieu. Et on peut vraiment dire, ça peut vraiment nous, vous voyez, faire sentir que le mot de la croix, il est paradoxal. Ce mot de la croix, ces paroles de Jésus sur la croix, ce que la croix essaie de nous dire, c'est à la fois oui, la grande détresse du Christ qui est réelle et qui nous accompagne, nous, dans notre détresse, dans notre misère. C'est l'horreur du péché portée, assumée d'une certaine manière par Jésus, avec tout ce qu'on a pu préciser hier. Mais c'est aussi le Christ en train de faire exploser tout ça, de faire exploser toute l'angoisse et toute la détresse et tout le mal pour triompher. Et Jésus, et il le sait. Et d'une certaine manière, il le sait et il le dit en commençant à réciter ce psaume. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» On peut, les deux explications permettent de comprendre, d'approcher le mystère de Jésus qui à la fois pâtit véritablement et souffre véritablement et traverse avec nous l'angoisse de la mort et à la fois est en train de triompher et s'approche de la gloire et de la lumière et il est roi. Il est à la fois l'homme le plus miséreux, celui que personne ne regarde, abandonné de tous, et en même temps le roi qui triomphe. Et saint Jean, je crois, a vu ça, a été sensible à ça. Peut-être parce qu'il a entendu cette parole « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» et qu'il décide, on va le voir juste après, de ne pas la mettre dans son évangile, mais de mettre tout le reste. C'est ce qu'on va voir juste après. Lisons d'abord, du coup, le psaume 21, qui est psaume 21 dans les anciennes Bibles, dans l'ancienne numérotation, si vous voulez. Parce que à partir du psaume 10, vous verrez dans vos Bibles, il y a deux numéros. Il y a un décalage, parce que le 9 est coupé en deux. Donc, dans la numérotation moderne, c'est le psaume 22. Dans la numérotation ancienne, celle de la liturgie notamment, c'est le psaume 21. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Insoucieux de me sauver, malgré les mots que je rugis, les mots que je prononce. » Donc là, on est vraiment dans l'idée, oui, insoucieux de me sauver, où es-tu, Seigneur ? Mon Dieu, le jour, j'appelle et tu ne réponds pas. La nuit, point de silence pour moi. La détresse, sentir que Dieu n'est pas là. Et toi, le Saint qui habite les louanges d'Israël, en toi nos pères avaient confiance, et tu les délivrais. Vers toi, ils criaient Ils échappaient en toi leur confiance et ils n'avaient pas honte. Avant, tu répondais. Et là, plus. Et moi, je suis un ver et non pas un homme, risé des gens, mépris du peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, leur bouche ricane, ils hochent la tête. Ah, c'est très stupéfiant. Qu'ils s'en remettent à Yahvé, qu'ils le délivrent, qu'ils le libèrent puisqu'ils l'aiment. Ça, c'est dans le psaume 21. C'est exactement ce que les Juifs vont faire en hochant la tête. Il appelle Élie. Élie, Élie, lama sabachthani. Ils vont faire une sorte de contresens. Il appelle Élie. Bon, allons voir, voyons si Élie va venir le délivrer. Ça, c'est dans l'une des passions. Dans une autre, c'est si tu es tout-puissant, descends de ta croix. Qu'il s'en remette à Yahvé, qu'il le délivre, qu'il le libère, puisqu'il l'aime, tous ceux qui vont venir. Quand nous sommes dans la difficulté, t'as ton Dieu, va lui demander ce mépris. Et là, on passe à autre chose. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as fait reposer sur sa poitrine. On va retrouver ça avec la Vierge Marie. Je crois qu'il y a un lien entre ce passage-là et le passage de « Voici ta mère » dans la Passion selon saint Jean. Il y pense, Jésus. C'est comme s'il se rétissait le psaume dans sa tête et qu'il pense à sa mère et que c'est à ce moment-là qu'il la regarde aller voir. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as fait reposer sur sa poitrine, sur toi je fus jeté au sortir des entrailles. Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi. Ne sois pas loin. Proche est l'angoisse, point de secours. Les taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de Bazan m'encerclent. Contre toi, contre moi, baillent leur gueule, ils rugissent, voilà. Lion lacérant et rugissant. Tous ceux qui attaquent le Christ à ce moment-là. Comme l'eau, je m'écoule, tous mes os se disloquent, mon cœur est pareil à la cire, il fond au milieu de mes viscères. Et tous ces mots qui... Mes entrailles. Ils font mieux de mes entrailles. Mon palais est sec comme un tesson. J'ai soif. Ce que Jésus va dire. Comme s'il pense à ce psaume et qu'il énumère différentes scènes. Et j'ai soif. Évidemment, ça aura une signification tout à fait autre dans la bouche de Jésus, mais ça vient de là. Mon palais est sec comme un tesson. Ma langue collée à ma mâchoire... Tu me couches dans la poussière de la mort. Les chiens nombreux me cernent, une bande de vautours, de vauriens m'entourent, comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds. Ils ont déchiqueté mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os. Les gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Les Romains ne sont pas du tout au courant du psaume 21. Sur la croix, ils vont tirer au sort le vêtement du Christ. Et voilà, ça c'est la première partie. Partie sombre, la première parole de la croix qui est l'affliction de notre Seigneur. Et voilà que le psaume continue. De l'abandonnement, on va vers l'abandon. De la sensation d'abandonnement, le psalmiste s'en sort avec l'abandon entre les mains de bon Dieu. Mais toi, Yahvé, ne sois pas loin. Ô ma force, vite à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien ma personne. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau ma pauvre vie. J'annoncerai ton nom à mes frères. En pleine assemblée, je le louerai. Vous qui craignez Yahvé, louez-le. Toute la race de Jacob, glorifiez-le. Redoutez-le, toute la race d'Israël. Car il n'a point méprisé, ni dédaigné la pauvreté du pauvre. Il n'a point caché de lui sa face, mais invoqué par lui, il écouta. De toi vient ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront Yahvé, ceux qui le cherchent. Que vive votre cœur à jamais. Tous les lointains de la terre se souviendront et reviendront vers Yahvé. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. C'est la victoire. Le triomphe du Christ. À Yahvé, la royauté, au maître des nations, Oui, devant lui seul se prosterneront tous les puissants de la terre, devant lui se courberont tous ceux qui descendent à la poussière. Voilà ce que Jésus ressent au moment où il est sur le point de mourir. Il est en train de triompher du mal et enfin de réconcilier les âmes avec son Père. Oui, ce que je suis en train de faire, c'est pour que les hommes reconnaissent la gloire de Dieu et lui rendent un hommage. Et s'associe à mon hommage, à ce que je suis en train de faire sur la croix, au grand sacrifice, à la gloire de mon Père, pour que les hommes le fassent aussi avec moi. Ah, il y avait la royauté au maître des nations. Oui, devant lui seul se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont tous ceux qui descendent à la poussière. Et pour celui qui ne vit plus, sa lignée le servira. Une idée de là encore, très vague de la résurrection. On pourra en discuter. Hein. Et pour celui qui ne vit plus, sa lignée le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir. On racontera au peuple à naître sa justice. Voilà son œuvre. C'est quand même extraordinaire, comme psaume, qui décrit des centaines d'années l'œuvre du Christ. Voilà l'œuvre du juste. Voilà l'œuvre de Dieu. De la misère et de l'abandonnement, passer à l'abandon. De la misère, passer à la gloire. Voilà ce qui se cache derrière la passion du Christ. Voilà ce que saint Jean, je crois, a perçu plus que tout autre. Car maintenant, on va justement regarder comment saint Jean essaye de traduire un petit peu ce psaume sans le dire. Sans le dire. Donc j'ai dit, la royauté est exprimée à plusieurs moments chez saint Jean, et dans le Christ, la croix, c'est son trône. En Jean 19-16. Ils prirent donc Jésus, et il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et au milieu, Jésus. Pilate, voyez l'insistance sur ce détail. Les autres évangélistes ont passé un peu à côté, mais il va insister sur ce détail. Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Bon, c'est pour se moquer qu'il le fait. Eh bien non. Et Jean va insister. Quand il insiste sur un truc, c'est que c'est important. Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent. Car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. C'est que on est en train d'assister à la mort du Christ, et là on s'attarde sur un détail du panneau qui est au-dessus de la croix. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais écris, cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce qui est écrit est écrit. Ah, c'est à la fois ce que moi j'ai écrit, bah, ça va rester écrit. Vous savez que l'écriture dans la Bible, c'est la sainte écriture. Et donc, il y a ce qui est écrit, et puis là, sans le savoir, de manière inconsciente, accomplit la prophétie qui annonce la royauté du Christ. Ce qui est écrit est écrit. Puis, vous voyez, dans le psaume 21, lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent quatre parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or, la tunique était sans couture. Si vous voulez apprendre un mot, elle est incontusible. C'est le mot prévu pour décrire la tunique du Christ, c'est incontusible, c'est-à-dire sans couture, et c'est évidemment une référence à l'unité de l'Église, sans couture, qui ne peut pas être déchirée. La tunique du Christ représente l'Église. Si c'est d'une pièce à partir du haut, ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura. Vous voyez, il y a quelques lignes pour développer ce thème-là, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes habits et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. C'est le psaume 21. Saint Jean ne cite pas le début, mais on voit que ce psaume habite toute sa passion. Voici donc ce que firent les soldats. Et puis arrive l'épisode de la mer. Et je crois qu'on peut vraiment rattacher l'épisode de la mer à ce qu'on a lu dans le psaume 21, de l'idée de « Je suis sorti des entrailles de ma mère. » Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils, hein, la même femme qu'il avait dit au moment de Cana, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Donc la Vierge Marie, évidemment, fait le lien. Puis il dit au disciple, « Voici ta mère, et depuis cette heure, hein, l'évoquait cette femme, mon heure n'est pas encore venue, depuis cette heure, le disciple l'accueillit chez lui. » Après quoi ? Ah, c'est bien très important. Sachant que désormais tout était achevé, hein, pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit « J'ai soif ». Il dit « J'ai soif » pour que l'écriture soit parfaitement accomplie. Or, dans l'écriture, à quel moment la prophétie dit qu'il a soif ? C'est dans le psaume 21. Donc il suit l'ordre du psaume 21. J'ai soif. Un vase était là rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, c'est achevé. Et inclinant la tête, il rendit l'esprit. Oui, non, on ne peut pas évidemment tout évoquer, mais ce que je voulais vous montrer là, dans ce passage, c'est comment, plusieurs degrés de lecture de la passion, et que, il faut regarder aussi la croix du Christ comme étant un moment de gloire pour lui. Je m'arrête un instant sur ce « j'ai soif » du Christ, le site si haut, qui évidemment a une profondeur très importante. Vous avez dit, la soif est l'un des thèmes majeurs du cœur de Jésus, de la méditation sur le cœur de Jésus. On peut remonter depuis Cana. Cana qui est un miracle concernant la soif. Hein, c'est très important. Et tous les pères de l'Église ont toujours vu dans le miracle de Cana l'idée que Jésus abreuve notre soif, fait ce miracle pour abreuver notre soif, pour que cette boisson que Dieu nous donne est bien meilleure que tout ce que nous avons pu prendre avant, puisque c'est lui-même qui se donne à nous, et que tout ce qu'on a pu désirer avant, ce à quoi on a pu goûter, n'a plus aucun goût lorsque nous goûtons à ce que le Christ veut nous proposer. C'est l'idée de cette boisson surnaturel qui est le Christ lui-même. On prolonge, ça c'est chez Saint Jean, hein. On prolonge avec le récit de la Samaritaine, Saint Jean 4, « Donne-moi de cette eau, c'est moi qui te donnerai de l'eau et tu n'auras plus besoin de puiser, tu n'auras plus jamais soif. » Cette eau qui abreuve intégralement et qui est en surabondance, toujours chez Saint Jean. Toujours chez Saint Jean, si je le retrouve. Voilà, donc Cana, c'est chapitre 3, je crois. Samaritaine, chapitre 4. Chapitre 7, chez Saint Jean. Or, le dernier jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Là encore, de la soif, et puis ce dernier mot de Jésus sur la croix, j'ai soif. Une petite explication théologique, ou spirituelle en tout cas, la soif comme la faim dans l'Écriture sainte désigne le désir. C'est une image du désir de ce vers quoi nous tendons. Donc la question qui se pose à nous, je crois, c'est d'essayer de méditer et de réfléchir, est-ce que nous avons soif comme le Christ ? Est-ce que nous avons soif de la même chose que le Christ ? C'est-à-dire de l'union, de la charité, de l'amitié avec lui. Lorsque Jésus dit « j'ai soif », c'est l'expression de sa charité, de son désir véritable de sauver les hommes. J'ai soif, je désire allumer un feu sur la terre, comme il le dit après le récit de la Samaritaine. Est-ce que nous avons soif de cette même soif-là ? Ou est-ce que notre bouche n'est pas attirés par d'autres soifs bien plus humaines, par des boissons bien moins surnaturelles que celles que le Christ nous propose, par le vin du début des noces, le premier vin, et non pas par le dernier. Donc je crois que c'est un thème, à mon avis, à méditer pour que, si nous voulons que le Sacré-Cœur de Jésus fasse quelque chose en nous, il faut nous-mêmes être dans un désir, dans une attente, dans une soif de lui. Or, on pourrait prendre une autre image pour exprimer cette soif ou ce désir, c'est l'image de l'aimantation. Je ne sais pas si c'est une image qui est très parlante, je n'ai rien trouvé de mieux pour le moment. Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. La vie chrétienne, la vie morale est une affaire d'attraction, de démentation, de désir. On ne devient pas saint en se forçant. Ou en tout cas, Dieu est en train d'essayer de nous attirer, de réveiller en nous une soif de lui. Il est en train de nous attirer, pour imaginer que c'est une sorte d'aimant, mais qu'il est assez loin. Cet aimant, c'est un aimant dans lequel nous croyons par la foi, un aimant dont nous n'éprouvons pas en permanence l'attraction, d'autant plus que nous sommes entourés d'autres aimants, d'aimants terrestres, qui sont chacun de nos désirs ou de nos soifs humaines, qui, elles, sont peut-être beaucoup plus immédiates pour nous, beaucoup plus facilement perçues, parce qu'elles sont souvent très sensibles, et que c'est très facile d'étancher, en tout cas à l'espace d'un moment, ces soifs-là en se saisissant des choses matérielles qui nous entourent. Et donc il y a un combat en nous, il faut bien voir que c'est ça la vie morale. La vie morale, c'est pas une histoire d'interdit ou d'obligation, c'est une histoire de quel est le désir qui va triompher dans ma vie. Quel est l'appel qui va être le plus fort et auquel je vais céder. Parce que c'est comme ça que marche la volonté. La volonté n'avance que vers un bien qui l'a séduit et auquel elle a accepté de se rendre. On le sent bien à chaque fois que nous faisons quelque chose, même un péché. On ne pêche pas parce que c'est mal. On pêche parce qu'on y a vu un certain bien et alors on est libre. Donc du coup, on est un petit peu en équilibre entre tous ces aimants qui sont autour de nous. Et puis à un moment, on décide librement de céder à l'attraction d'un aimant ou de céder à l'attraction d'un autre. Si cet aimant est bon, on fait un acte bon. Si cet aimant est mauvais, on fait un acte mauvais. Mais c'est parce qu'on a cédé à une attraction, parce que ça nous semblait bien. Et la vie morale, c'est ça, je crois, et c'est de se dire comment faire en sorte que l'attraction de l'aimant, du seul aimant qui peut remplir mon cœur, de la seule soif qui peut étancher ma soif, triomphe des autres aimantations. Et je crois que le carême est là pour ça, parce que pendant le carême, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'écarter les aimants terrestres, tout ce qui nous retient au sol, tout ce qui brouille, en fait, aussi le champ magnétique, pour rester dans l'image, de ce cœur de Jésus qui cherche à nous attirer. Et si on écarte ça, c'est parfois douloureux, d'écarter les désirs terrestres, d'écarter tout ce qui nous tiraille et peut-être nous emprisonne. Et donc l'écartement est dur parce que l'aimant est fort, il est violent. C'est la pénitence. À la place de la pénitence, de couper les liens, voilà, pour enfin ressentir ce qu'on devrait ressentir depuis le début, c'est que Jésus cherche à nous attirer. Et pour subir l'attraction du bon Dieu, mais il faut s'écarter de ce champ magnétique terrestre qui nous empêche de l'entendre. Et donc c'est le carême et ces deux axes, la pénitence et la prière. Alors on fait pénitence et ensuite on va voir le Seigneur pour prier, pour essayer d'entendre cette attraction. Je ne sais plus qui disait, la pénitence, c'est l'amour qui se débarrasse de ce qui le gêne. Et ça change notre vision de la pénitence, qui n'est pas spécialement, qui n'est pas que, en tout cas, j'ai péché, je suis vraiment quelqu'un de très nul, donc il faut que je me châtie. Attention, il y a cette dimension-là dans la pénitence. la dimension de réparation de nos fautes, de mettre du bien là où on a mis du mal, de mettre de l'ordre là où on a mis le désordre, il y a cette dimension-là. Mais ce n'est pas la seule. L'autre, c'est je m'écarte de ce qui risquerait de m'empêcher d'accéder à Dieu. Et écartant tout cela, l'amour se débarrasse de ce qui le gêne pour mieux aimer. Pour mieux aimer. Voilà, c'est une petite réflexion autour de l'affaire de la soif. Jusqu'à 11h.
Oui.
Ok, très bien. Donc, dernier regard que je voulais avoir avec vous sur cette passion du Christ, c'est ce qui se passe après la mort du Christ. C'est très étonnant chez Saint Jean, on reste chez Saint Jean. Il est le seul à décrire un événement tout à fait particulier, alors que Jésus est déjà mort. Dans les autres évangiles, très rapidement, Jésus est mort, on le descend de la croix et il est mis au tombeau. Il ne se passe plus rien, il est mort, c'est fini. Or, Saint Jean décrit un événement qui arrive après la mort du Christ et qui va nous aider à réfléchir sur ce qu'on a dit tout au début hier, il les aima jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a une fin ? Est-ce que la mort du Christ est la fin ? Eh bien, je crois justement que non. Cet événement, c'est le cœur transpercé de Jésus. Et vous voyez comment Saint Jean va faire tout un paragraphe insistant sur ce détail que peut-être lui seul a vu, d'ailleurs, comme il va le raconter. Comme c'était la préparation des Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car le sabbat était un grand jour. Il manque un mot. Les Juifs demandèrent... Non, il manque l'italien un peu aussi. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Le fait de briser les jambes fait qu'ils sont encore vivants, et ils peuvent plus s'appuyer sur les jambes, et donc c'est l'asphyxie rapidement, très rapidement. Ça accélère le processus de mort de la crucifixion. Quand même assez atroce. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venu à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, il y a un détail intéressant, c'est Jésus qui choisit quand est-ce qu'il meurt. Vous savez, Pilate est étonné, dans un autre récit. Pilate est étonné, comment se fait-il qu'il soit déjà mort ? Normalement, une crucifixion, ça prend du temps. Jésus meurt quand il le veut. Quand tout est accompli, quand il a accompli les Écritures, Jésus meurt. Il a la maîtrise. Il a la maîtrise des événements. C'est un fait important. Voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage et son témoignage est véridique et celui-là sait qu'il divers. Vous voyez cette insistance de Saint Jean pour dire ça, vous pouvez en parler, c'est lui le témoin. Hein. Voilà. Et pour que vous aussi vous croyez, car cela est accompli afin que l'Écriture fût accomplie. Cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie. Pas un seul de ses os ne sera brisé. Et une autre Écriture dit encore, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Et je crois que, au-delà de l'aspect symbolique d'insister sur le cœur de Jésus, il y a quelque chose d'extrêmement important dans le fait que Jésus étant mort, son cœur déverse encore sur nous son amour. Son amour. Et c'est à mettre en rapprochement avec cette parole de Saint Jean, chapitre 13. Il les aima jusqu'à la fin. Et ensuite, au chapitre 19, deux fois, Saint Jean dit « c'est fini ». Vous voyez, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, donc Jésus le sait que tout est achevé. Et ensuite, il le dit, dans un verset un peu plus loin, « Tout est achevé ». Jésus dit « Tout est achevé ». Et inclinant la tête, il remplit l'esprit. On pourrait dire, c'est là le terme. C'est fini. L'amour du Christ est allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait. Et maintenant, c'est fini et c'est bien assez. Et je crois que si Saint Jean insiste sur ce détail, alors que Jésus est mort, que de son cœur coulent l'eau et le sang, c'est justement pour nous dire que ce n'est pas fini. Que ce n'est pas fini, qu'au contraire, peut-être, tout commence, et que maintenant que le Christ est mort pour nous, il lui reste tout à faire, c'est-à-dire il lui reste à faire en sorte que cette passion de Jésus touche le cœur de chacun d'entre nous, nous touche, nous tous, personnellement. Et c'est pour cela que l'Église a toujours vu dans l'eau et le sang qui coulent du côté de Jésus, l'image de l'Église. L'image de l'Église. L'Église naît, dit saint Thomas d'Aquin, du côté transpercé du Christ, à l'image, c'est pas du tout pareil, c'est très fort, à l'image d'Ève qui naît du côté transpercé, du côté d'Adam. Premier Adam qui donne Ève, deuxième Adam qui donne l'Église, et cet amour entre le Christ et l'Église, qui est une image de cet amour des époux entre Adam et Ève, et que l'Église propose à votre contemplation le jour de la messe du mariage, disant c'est cet amour-là qu'il faut imiter. L'Église est l'invention de Jésus pour que son amour continue à nous toucher, et notamment à travers les sacrements. Non, à travers les sacrements, puisque l'eau et le sang, les pères de l'Église ont toujours vu dans l'eau et le sang, le baptême qui purifie et l'Eucharistie du sang du Christ. Et c'est à travers principalement ces deux sacrements que Jésus continue à vous aimer. Continue à vous aimer. Et ça nous permet de revenir au thème du tout début, sur lequel je suis un petit peu passé rapidement, sur l'Eucharistie, qui aujourd'hui est le lieu dans lequel vous pouvez entrer en contact avec Jésus qui vous aime. Que l'amour de Jésus est étendu à travers l'Église catholique, qui n'est autre que le Christ répandu et communiqué, que le Christ qui continue à agir, même après sa mort et sa résurrection, même après son ascension, et avec lequel je rentre en contact, d'abord à travers le baptême par la foi, premier contact, et surtout et notamment à travers l'Eucharistie dans lequel je m'unis à lui. Si bien que cette parole de saint Jean, ils regarderont vers celui qu'ils auront transpercé, elle s'adresse à nous, elle nous appelle à regarder l'hostie consacrée, qui n'est autre que le cœur eucharistique de Jésus. Ce cœur de Jésus qui a été transpercé, qui maintenant est physiquement au ciel, ça c'est un mystère. Le corps et le cœur de Jésus sont quelque part dans l'univers. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé ça, ça a toujours fait quelque chose. Parce que Jésus est vraiment monté au ciel avec son corps, et il y a un lieu, parce qu'un corps demande un lieu, il y a un lieu quelque part où il y a le corps de Jésus, vivant, glorifié. C'est le début du ciel matériel, entre guillemets. Il y a deux corps, a priori, le corps de la Sainte Vierge et le corps de Jésus, quelque part. Bon, voilà. Et donc son cœur bat. Non, mais c'est vrai. Il faut tenir la résurrection des corps au sens fort. Il y a deux corps déjà ressuscités qui sont quelque part, et nous, on les rejoindra un jour. Mais son cœur bat quelque part, et par la consécration, ce cœur, dans ce corps du Christ, descend dans l'Eucharistie et se propose à nous. Et nous, ce que nous avons à faire, c'est de regarder vers celui que nous avons transpercé. Le regard est au cœur de tout ce... cet évangile, et on peut penser au regard de Saint-Pierre qui regarde le Christ. C'est la réponse au regard de Jésus. Vous savez, hier, Christ voit, il est pris de pitié et il descend et il s'approche. Je crois que c'est le mouvement de l'Eucharistie. Le Christ nous voit, pris de pitié, il descend sur les autels et il attend que nous le regardions. Nous regardions vers celui qui a été transpercé. On regarde l'hostie deux fois pendant la messe, à l'élévation. Vous savez, l'élévation, ça n'est arrivé que au XIIe siècle, suite à une hérésie. Et les gens aimaient tellement l'élévation que lorsque le prêtre élevait l'hostie, on disait « Plus haut, mon père, plus haut, plus longtemps !» pour pouvoir continuer à regarder l'hostie sainte. C'est tellement fabuleux de regarder physiquement, réellement Jésus, de regarder vers celui qu'on a transpercé, que les gens étaient tout à fait sensibles. Et c'est là que viennent les cloches à la messe, parce qu'on sonnait la cloche, la grande cloche de l'église, au début du canon. C'est un petit peu ça du Sanctus, du Ancigitur. Et les gens qui avaient, par exemple, eu la messe le matin ou qui étaient dans les champs et qui ne pouvaient pas la voir en semaine, quand ils entendaient la cloche, ils arrêtaient tout, ils venaient, ils regardaient l'élévation et ils repartaient. Ils repartaient. C'était même devenu un petit peu superstitieux à un moment. On disait que celui qui regarde l'élévation ne mourra pas dans l'année, etc., etc. Il y avait tout un culte autour de ça, si bien qu'il y a une contre-réaction en disant les fidèles doivent avoir la tête baissée pendant l'élévation. Et ce qui fait qu'il y a des confusions aujourd'hui encore. Qu'est-ce que je dois faire pendant l'élévation? Est-ce que je dois regarder ou est-ce que je dois baisser la tête? Et moi, je vous encourage. Les papes ont repris ça depuis. Je vous encourage à regarder. À regarder, à poser un acte de foi à ce moment-là. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est le corps. Il y a quoi dans cette hostie qui semble si inerte et immobile? Il y a le cœur brûlant de Jésus. Il y a tout l'amour du bon Dieu pour nous qui est concentré dans ce petit morceau de pain et qui saigne d'amour pour nous et qui veut déverser sa grâce en nous. Et lorsque nous communions, ce cœur de Jésus vient en nous et là se propose, ce sera une dernière conclusion, se propose à nous ce thème magnifique de l'échange des cœurs qui a été médité par Ézéchiel. Je ne sais pas si vous avez la référence en tête, je crois qu'on l'a lu mercredi dernier, tout le carême depuis des centaines d'années à méditer tous ces textes et les a mis dans la liturgie. Et mercredi dernier, on méditait sur le thème d'Ézéchiel. Je vous le lis. C'est le projet de Jésus pour nous. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre que vous avez, ce cœur dur de pécheur qui est le vôtre, qui est le nôtre, et je mettrai à votre place mon cœur, un cœur de chair. C'est la grâce mystique qu'a eue Sainte Catherine de Sienne. C'est magnifique. On dit que quand elle faisait oraison, Sainte Catherine de Sienne, les sœurs entendaient son cœur battre d'amour. C'est pas mal. Et une nuit, Sainte Catherine de Sienne a une vision de Jésus qui lui apparaît et qui lui prend son cœur. Il prend son cœur. Et elle va voir son père spirituel, et le père spirituel lui rit un peu au nez en disant « Sans cœur, ma pauvre religieuse, on ne peut pas vivre. » Parole tout à fait prophétique, en effet, sans cœur, mais sans le cœur de Jésus, surtout, on ne peut pas vivre. Et quelques jours après, Jésus lui réapparaît à Sainte Catherine de Sienne, et tenant un cœur battant et lumineux dans ses mains, et Jésus lui dit « Ma fille bien-aimée, j'ai pris l'autre jour ton cœur, aujourd'hui je te donne le mien, c'est lui qui te servira désormais. » Il referma le côté de Sainte Catherine de Sienne, laissant une cicatrice comme preuve du miracle. Sainte Catherine dira, « Je suis complètement changée. Oh, si vous saviez ce que j'éprouve, mon cœur est tellement enivré de bonheur que je m'étonne de la voir rester dans son corps. Son ardeur est si grande que le feu extérieur n'est rien auprès d'elle. Et cette ardeur opère en moi un tel renouvellement de pureté et d'humilité que je crois revenir à l'âge de 4 ans. L'amour du prochain augmente aussi tellement que ma joie la plus grande serait de mourir pour quelqu'un. » Alors juste, une telle chose à dire sur cette magnifique thème de l'échange des cœurs. L'échange des cœurs, c'est la charité. C'est le fait de demander à Jésus d'aimer à notre place, d'aimer en nous. C'est ce cœur qui veut se donner aux hommes et qui se donne à nous à chaque communion. On va dire, c'est pas cette expérience en Catherine de Sienne, moi je la ressens pas à chaque fois que je communie. D'abord, ce n'est pas une question nécessairement de ressenti, on terminera avec ça, mais c'est peut-être une question d'habitude pour nous. Ça, sans doute, on a approfondi notre rapport à la communion et à nous demander si nos communions sont aussi ferventes qu'elles le devraient. Parce que toute la question pour qu'une communion marche bien, pas simplement d'être à jeun et de ne pas avoir de péché mortel sur la conscience, ça c'est des conditions négatives. Mais la condition positive pour aller communier, c'est de le désirer. Et on retrouve la soif. On retrouve le thème de la soif et du désir et de la faim qu'on a. Si on n'a pas faim de l'hostie, l'hostie ne nous nourrit pas. Ce n'est pas magique, l'Eucharistie. Ce n'est pas magique, c'est une histoire de ferveur. J'en avais parlé l'année dernière à propos de la charité. Pour que notre ferveur augmente, il faut ouvrir notre cœur au bon Dieu. Et ça passe par l'attention, et le fait d'être attentif, qui est aussi être tendu vers. être tendu vers. C'est une histoire de présence à Dieu. On voit bien que c'est une histoire d'amour, parce que quand on est indifférent à quelqu'un, cette personne a beau essayer de nous donner tout son amour, ça ne nous fait rien, parce qu'on est indifférent. Et à nous d'être attentifs, d'être tendus vers le Seigneur, désirant, de cultiver peut-être ce désir, de l'entretenir pendant la messe. Si on le sent très, 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 très faible et absent, parfois on pourrait même conseiller de dire « je ne vais pas communier cette fois-ci pour réfléchir plus profondément à la beauté de l'Eucharistie et pour le désirer plus. » Et là, il se passe l'échange des cœurs. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est dans Sainte Catherine de Sienne, le signe que ça a marché, que vraiment le cœur de Jésus est venu en lui, c'est qu'elle se met à éprouver la même prise aux entrailles que le Christ dans les évangiles. Et là, vous rappelez-vous ce qu'on a vu hier, Jésus voyant les miséreux, voyant les pauvres, voyant les pécheurs, est pris aux entrailles. Il est, il est pris de compassion, véritablement pour eux. Et je crois que c'est vraiment ça qui va être l'indicateur que Jésus travaille en nous. C'est pas nécessairement sensible. Alors évidemment, quand on médite sur le cœur de Jésus, quand on va faire une belle communion, on peut avoir le cœur très chaud. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Pourquoi est-ce que... mais attention à pas nous limiter à ça quand on médite sur le cœur du Christ, parce que c'est pas ça justement. Ce que Jésus cherche à nous communiquer, c'est son cœur, et donc ce sont ses émotions et sa tendresse pour les âmes. Et si notre vie spirituelle se contente d'être un cœur à cœur avec Jésus, où on est tout chaud avec lui et c'est merveilleux, mais que dès qu'on sort, les gens, on leur parle pas, on les regarde de haut et qu'on n'a aucune compassion pour eux, c'est tout à fait un signe qu'on est dans une erreur et qu'on est en train de s'illusionner notre relation avec Jésus. Ça, j'en suis vraiment, vraiment persuadé. Le cœur de Jésus est broyé de miséricorde pour nous. Il l'a été du début de sa vie, à travers voyant les brebis sans berger, voyant la tristesse de la femme de la veuve de Naïm, voyant son ami tout au long de sa vie, le cœur de Jésus a été compatissant pour les âmes, que ce soit pour leur détresse morale, leur péché, que pour leur détresse physique. Et nous, véritablement, le signe que Jésus est en train de transformer nos cœurs, c'est que nous aimons les autres. Et en cela, faut relire tout le passage sur la charité. Il n'y a pas d'amour de Dieu sans amour du prochain. Tout est lié parce que vivre de la charité, c'est avoir le cœur de Jésus en nous et c'est éprouver les mêmes contractions, pris aux entrailles par la détresse humaine. C'est quelque chose avec lequel on a parfois un petit peu du mal parce que, dans certains milieux, on va dire, ah oui, mais aujourd'hui l'Église catholique ne parle que des pauvres, elle ne parle plus du Christ, on est en train de se transformer en ONG. Et donc du coup, parfois contre-réaction en disant, non, le chrétien, le tradit, il a une vie spirituelle, il aime Jésus, il parle de la foi, il combat. Oui, mais si vous n'avez plus la charité pour les gens, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et ça, c'est vraiment, je crois, très important, ce sera ma conclusion. Il faut s'intéresser aux âmes. Il faut s'intéresser aux gens. Si vous voulez faire comme Jésus et vivre comme Jésus, il ne faut pas s'intéresser qu'à Jésus. Il faut s'intéresser aux âmes et avoir le cœur pris par la difficulté des gens, par les peines des gens et par leurs péchés, prier pour eux, être miséricordieux. L'Église a résumé ça à travers les 14 œuvres de miséricorde que je vous invite à méditer. 7 œuvres matérielles de miséricorde. Et cette œuvre spirituelle de miséricorde, voilà. Et curé d'Ars, ce sera ma véritable conclusion, le curé d'Ars disait « Les saints ont le cœur liquide. » Les saints ont le cœur liquide. Expression tout à fait particulière qui vient à n'en pas douter de saint Thomas d'Aquin, pour qui l'effet de l'amour, c'est la liquéfaction du cœur. D'avoir le cœur liquide. Et on retrouve ce qu'on a lu dans le psaume 21, mon cœur se répand comme la cire. Pourquoi ? Parce que le cœur liquide, c'est l'inverse du cœur solide, du cœur dur, du cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est le cœur qui est comme un glaçon, deux glaçons qui s'entrechoquent et qui ne se compénètrent pas. C'est bien que quand on a le cœur dur, ce qui se passe dans le cœur de l'autre, on ne peut pas le ressentir parce qu'on ne rentre pas dans son cœur. Et donc on est froid et refermé à la douleur des gens. Et je crois que le Christ, au contraire, avait un cœur liquide. C'est-à-dire que la charité de Dieu, le feu du Saint-Esprit, fait fondre les cœurs pour que les cœurs s'entremêlent et que du coup on s'intéresse à ce qui se passe dans l'autre. Je crois que l'amour, c'est ça. L'amour conjugal, l'amour d'amitié, c'est le fait qu'on cherche à ne faire plus qu'un. L'amour tend à l'union, l'autre devient un autre nous-mêmes, et ce que souffre l'autre, je le souffre aussi. Ce qui fait plaisir à l'autre me fait plaisir à moi. Sa joie est la mienne, etc., etc. Parce que nos deux cœurs sont liquides, ont été réchauffés par l'amour et tendent à faire plus qu'un. Bien, je crois que c'est une belle grâce qu'on peut demander à Dieu de faire un peu fondre nos cœurs refroidis par le monde. Si vous avez un chemin de croix vendredi saint, vous entendrez cette belle prière à la fin du chemin de croix, Seigneur, dont l'amour a permis de réchauffer nos cœurs refroidis par le monde, et de faire fondre un peu nos cœurs pour nous rendre capables d'aimer et de compatir pour autrui. Alors là, oui, nous aurons été touchés par le cœur de Jésus. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie, on va essayer de garder le silence pour méditer.